Bonsoir à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez, moi j'essaye de m'entendre. Ce que Jésus aimerait dire aux marchands de la mort. En voyant ce thème, on pourrait se poser la question, c'est qui les marchands de la mort? Et lorsque nous considérons la mort, on peut se dire, mais pourquoi parler de la mort? Parler du péché qui a abîmé l'être humain et qui a conduit à cause de la convoitise, à des excès et à des trafics de tout genre. Comment donc retrouver l'image de Dieu dans l'homme et apprécier le salut offert en Jésus-Christ? Oui, chers amis, bonsoir à tous. Cette soirée est consacrée sur le sujet tragique de la mort, mais combien fort utile pour chacun d'entre nous de reconnaître ce que Jésus aimerait dire à certains individus. Heureusement pour nous que la Bible commence par une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle est la suivante. Dieu crée à l'homme à son image et à sa ressemblance. Une tellement bonne nouvelle que nous pouvons encore aujourd'hui nous dire que quelque part, nous pourrions retrouver l'image de Dieu dans l'homme. Dans son amour pour l'homme, Dieu a tout mis en œuvre, tout. Dès le départ, dès le jardin d'Éden, pour le bien de ce dernier. Il a mis donc en place une mise en garde, en leur disant, « Vous pourrez manger de tous les arbres du jardin. » Oui, tous, sauf celui qui se trouve au milieu du jardin. Celui-ci, vous ne le mangerez pas. Ainsi, cette mise en garde était claire et précise dans la conduite de nos premiers parents. Ainsi, il fit de la prévention dans les moindres détails, en leur disant que la moindre désobéissance entraînerait inévitablement des conséquences, un désordre dans l'organisation de cette création si parfaite à ce moment-là. Et oui, une souffrance s'ensuivrait, de la tête aux pieds, du sol en passant par la mer, les montagnes, tout allait subir les effets de cette désobéissance. Chers amis, qu'est-ce que Jésus aimerait dire aux marchands de la mort? Il y avait donc là, face à ces êtres humains, Adam et Ève, deux choix possibles. Le choix de la connaissance ou le choix de la connaissance. Et vous allez me dire, mais quelle différence entre ces deux choix, entre la connaissance et la connaissance? Alors, je ne sais pas si vous avez vos Bibles, moi j'ai ramené la mienne. Et dans Michée chapitre 6, le verset 8, alors, on m'a dit qu'il ne fallait pas trop m'éloigner de cette caméra, alors je viens juste à côté de la caméra. Vous avez votre Bible? Michée chapitre 6, et le verset 8 nous dit, « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement devant ton Dieu. » Ça veut dire que là, il y a le premier choix de cette première connaissance. Est-ce que l'homme peut faire ce choix? Ce choix de connaître Dieu, de connaître le bien. Parce que Dieu, dans sa création, à chaque étape, il va dire que cette chose est bonne. Et à la fin de la création, il dit que c'est très bon. Donc, ce que Dieu veut pour l'être humain, c'est quelque chose de bon. Mais vous êtes en train de vous dire, mais il nous a parlé de deux connaissances. Quelle est cette deuxième connaissance? Alors, ouvrez vos Bibles, pour ceux qui l'ont, dans la connaissance du mal, et qui conduit au mal, Genèse chapitre 3, le verset 5. Genèse chapitre 3, le verset 5, il nous dit, c'est Satan qui va répondre à ces êtres humains, notamment à Ève, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Voilà donc cette deuxième façon de connaître. La première, connaître Dieu nous emmène au bien. Et la deuxième, connaître le bien et le mal qui nous emmène inévitablement vers la destruction. Il y avait donc un choix possible pour l'être humain. Est-ce que ce choix est toujours possible pour nous ce soir? Voyons un peu ce qu'a décidé nos premiers parents. Mais l'homme, par son égoïsme et surtout sous la pression de la convoitise, se laisse prendre au piège de goûter à l'interdit. Parce que Dieu avait dit, « Quant aux fruits qui se trouvent au milieu du jardin, vous ne le mangerez pas. » Ainsi, ils vont découvrir peu à peu les conséquences de leur faute. Et le péché de cette simple désobéissance ne va pas amener une amélioration dans la vie de ces hommes, dans la vie de chacun d'entre nous d'ailleurs. Il y aura là une nette dégradation, mais une dégradation tellement rapide que juste quelques années plus tard, voilà que Caïn, le fils aîné, va se jeter sur son frère le plus jeune, Abel, et va le tuer. Dieu avait dit que le jour où il y aurait cette désobéissance, le moindre dérapage, il y aurait des conséquences. Et ces conséquences, et bien évidemment, Adam et Ève vont être chassés de ce jardin magnifique, ils vont être chassés de ce paradis, et vous l'avez entendu, ils vont vivre la tristesse de perdre leur fils. Chers amis, Romains chapitre 5, le verset 12, nous dit ceci. Voilà pourquoi, de même, par un seul homme, le péché est entré où ? Dans le monde. Et par le péché, la conséquence est la mort. Et qu'ainsi la mort a atteint tous les hommes. Et le texte termine en disant, d'ailleurs, tous ont péché. Et lorsque nous considérons ce « tous ont péché », nous pourrions nous poser la question, est-ce que moi, je ne peux pas être l'exception à la règle ? Et nous pourrions peut-être tomber dans ce rôle de se dire, non, moi, je suis saint. Je vais à l'église, je lis ma Bible, peut-être que je fais ma prière, ou je ne sais pas, je vais dans des réunions, je ne fais pas le mal en tout cas, je ne vole pas, je ne tue pas. Mais est-ce que cela me permet de dire que je suis juste ? Le texte est clair, chers amis, tous en péché. Et la conséquence du péché, c'est la mort. Le premier, donc, marchand de mort, c'est le diable. Parce qu'il a dit à nos premiers parents, « Mais oui, vous inquiétez pas, vous pouvez manger. Car le jour où vous allez manger, vos yeux s'ouvriront. » Et effectivement, les yeux se sont ouverts à tel point qu'ils ont découvert qu'ils étaient nus. Dénudés, complètement dépouillés de la gloire de Dieu. Tragédique, n'est-ce pas ? Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Apocalypse, chapitre 12, le verset 12, nous parle un petit peu de ce marchand, ce premier marchand de mort. Apocalypse, chapitre 12, le verset 12, il nous est dit ceci. C'est pourquoi, réjouissez-vous, qui donc ? Cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Parce que celui qui est venu poser problème sur la terre a quitté les cieux. Heureusement pour eux. Mais la suite du texte nous dit quoi ? Mais malheur à la terre et à la mer, car le diable, le marchand de la mort, est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Et donc le diable essaie, j'allais dire tant bien que mal, mais c'est pas mal, parce qu'il réussit à tous les coups, quasiment. Il va faire le mal et il va faire du mal et il va tout faire pour nuire à cette population humaine, à cette race humaine, depuis les plus jeunes jusqu'aux plus âgés. Et ce marchand de mort, aujourd'hui, il peut encore agir à travers un certain nombre d'éléments autour de nous. Au cours de notre conférence, nous verrons qu'il va aborder les jeunes par certaines substances illicites. Mais si nous prenons les plus jeunes, ce marchand de mort est en train de captiver les plus jeunes avec les écrans, avec les ordinateurs, la télévision, les tablettes et les téléphones. Parce que ce sont des choses qui attirent. Cet après-midi, j'ai visité un membre de ma famille qui vient d'avoir un enfant et il nous disait, à peine une semaine, on met un écran pas trop loin et l'enfant, le bébé, hop, il regarde la lumière. Comme si nous étions attirés par ce marchand de la mort, parce que les écrans attirent le regard. Et bien évidemment, on pourrait se dire que tout ce qui est flash attire le regard, mais le dicton ne nous dit pas, tout ce qui brille n'est pas forcément de l'or. Il veut nous nuire et à nous de nous en préserver. Il y aura donc là plusieurs conséquences face à cette simple désobéissance de nos premiers parents. Il y aura une dégradation notable du côté physique. La souffrance, la maladie, la fatigue, et nous le voyons dans Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, où Dieu parle à l'homme qui vient tout juste de désobéir et il va leur dire, chapitre 3 à partir du verset 16, il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses et tu enfanteras avec des douleurs et tes désirs se porteront vers ton mari, mais toi, domine et il, pardon, dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme, puisque tu as fait comme elle et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Et c'est à force de la peine que tu retireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il va produire des ronces, des épines, et tu mangeras les herbes des champs. » Chers amis, même si c'est le premier jour de la semaine, même si c'était un jour dans lequel nous n'avons pas fait grand-chose aujourd'hui, la fatigue sur le visage humain se voit, soit par la maladie, soit par une activité trop dense, soit par les soucis de la vie, les enfants, les parents, les proches. Oui, la fatigue physique se voit. Il y aura aussi une dégradation sur la vie de la terre. Elle deviendra hostile. Et on l'a vu, la terre produira des épines. Et dans Romains chapitre 8, le verset 19 à 20, on nous dit « Aussi la création attend-elle avec ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise. » Soumise à quoi ? À la vanité. Non de son plein gré, mais à cause de celui qui l'a soumise. À cause de celui qui l'a soumise. Ça veut dire que par le péché est rentré par un seul homme, on l'a vu tout à l'heure. Et c'est ce seul homme-là qui a fait que la terre est soumise à la souffrance aujourd'hui. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, chers amis, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière souffre et soupire des douleurs de l'enfantement. La terre souffre. Et le journal, il y a deux semaines et demie à peu près, il y avait écrit à l'arrière du journal, d'ailleurs je me suis demandé pourquoi, c'était le dernier article de ce journal, il était écrit « La terre est en train de mourir ». Nous avons pris conscience, l'être humain a pris conscience, peut-être trop tard, qu'on était en train de détruire la terre. Ce marchand de mort utilise aujourd'hui des hommes et des femmes pour continuer à dégrader, à détruire cette planète qui a été faite pour nous. La nature n'a pas besoin de l'homme. La nature peut se développer d'elle-même. La nature peut se protéger elle-même. D'ailleurs, elle se renouvelle. Malgré le péché, cher ami, les feuilles tombent, ça fait un compost, ça fait de l'humus, et hop, c'est reparti, la végétation repart de plus beau, de plus belle. Belle nature qui nous entoure. La nature n'a pas besoin de moi, la nature n'a pas besoin de vous. Nous avons besoin de la nature, et nous sommes en train de la détruire, et nous sommes en train de participer, d'une façon ou d'une autre, avec les collaborateurs, comme des collaborateurs, pardon, de l'ennemi. Oui, la nature souffre et soupire de cette douleur. Et ainsi, nous avons vu dans Romains 5, verset 12, que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par ce même homme, la mort. Et la mort a atteint tous les hommes. Lorsque nous sommes face à la mort, la plupart d'entre nous, nous versons une larme. Si ce n'est pas plusieurs. Lorsque nous sommes face à la mort, nous nous posons tous cette même question, mais pourquoi ? Nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes jamais prêts. Même si les gens qui sont en train de partir étaient souffrants et qu'on pourrait se dire, c'est une délivrance pour eux. Mais on se dit toujours, c'est toujours trop tôt. On aimerait que ce cher, tendre, aimé reste encore quelque temps. La mort touche et frappe tous les jours, et je dirais même toutes les heures. Et même ceux qui sont vivants sont en train de mourir. Et vous allez découvrir tout à l'heure avec moi comment. Eh bien, tout de suite, parce qu'il y aura aussi une dégradation sur le côté spirituel. Une dégradation notable, pourquoi ? Parce qu'au moment où Dieu va dire à Adam et Ève, « Je ne peux pas vous garder dans ce jardin, vous devez partir. » Et lorsqu'il ferme ce jardin en mettant les chérubins à la porte, ils ne pourront plus entrer dans ce jardin. Et du fait de ne pas pouvoir entrer dans ce jardin, ils n'auront plus accès à l'arbre de vie. Ce qui veut dire qu'à partir de ce moment, le processus de dégradation cellulaire se met en place. Mais pas que. Le fait d'avoir quitté le jardin, le paradis, ils étaient maintenant coupés de cette relation personnelle et intime avec le Créateur, avec Dieu. Une dégradation spirituelle que chacun d'entre nous aujourd'hui serait en recherche, en quête de retrouver cette relation. Et je mettrai au défi même ceux qui sont derrière la caméra, levez la main ceux qui ont déjà vu Dieu. Personne ne pourrait lever la main. On ressent les effets de Dieu dans notre vie, ça c'est sûr. Mais nous ne pouvons pas, comme Adam et Ève, jouir et bénéficier de cette présence continuelle. Je dis présence physique, ça se voit. D'ailleurs, le texte biblique nous dit aujourd'hui que si nous pourrions voir Dieu, nous serions morts. Ésaïe 59, verset 2 nous dit qu'il y a là quelque chose de très important. « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Et ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Une dégradation dans l'état d'esprit, une dégradation dans cette relation, une dégradation qui est terrible parce que l'être humain ne peut pas avancer sans celui qui lui donne ses directives. On court tous à cette catastrophe, et on l'a vu, c'est la mort. Mais vous êtes déjà en train de vous poser cette question, mais pourquoi le texte nous dit « ce sont vos crimes ? » Je n'ai tué personne. Ce sont vos péchés. Mais je vous ai dit, moi je ne commets pas d'adultère, je ne fais pas le vol, je ne mens pas. Et... Tous ont péché. Tous sont condamnables. Et tous sont privés de cette relation avec Dieu. Nous sommes donc tous séparés de ce Dieu qui nous aime tant. Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 3 nous dit « Vous qui étiez morts, oui, morts par quoi ? Morts par les convoitises de la chair. Il y a là donc un vendeur, un marchand de mort qui joue à travers la chair. » Et on pourrait mettre des images. J'ai pas réussi à les mettre. Attends pour vous les montrer. Dans certains pays, on va dire que ce n'est pas à La Réunion, histoire de nous déculpabiliser. Il y a des maisons où on accueille des jeunes filles, très jeunes. Et à un moment donné, on leur dit, écoutez, allez vous laver les mains, allez vous remaquiller un petit peu parce que vous avez un autre client derrière. Marchand de la mort. Des gens qui sont obligés de vendre leur corps pour survivre. Même pas pour vivre, pour survivre. Dans un monde hostile, on l'a vu. Dans un monde qui ne fait pas de cadeaux. Dans un monde qui vous piétine, qui nous piétine et qui va tout faire pour nous dégrader. Quand on touche à l'intimité d'une personne, on lui enlève sa personnalité. Quelque chose qui était au départ sacré. Une relation saine, une relation d'amour entre un homme et une femme, entre le couple que Dieu avait placé dans ce jardin. Et bien cette dégradation se trouve être encore, comme on nous dit dans la Bible, c'est un cercle, d'accord ? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui se faisait avant se fait encore aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est légal, on va dire. Hein ? C'est tellement légal qu'on a mis des lois en place pour autoriser les hommes à se marier avec des hommes. Et des femmes à se marier avec des femmes. Marchand de la mort, mais ce n'est pas naturel. Et on est en train d'essayer de mettre en place des lois concernant nos jeunes. Ces lois nous disent que vos enfants ne sont plus vos enfants. Ils appartiennent à la société. Ça veut dire qu'un de ces jours, j'espère le plus tard possible, n'importe quel homme qui marche par là, il trouve une jeune fille et il a un désir sexuel, il peut la prendre. Et les parents ne pourront pas dire que c'est un viol, parce que l'enfant appartient à la société. Une dégradation telle. Chers amis, certaines familles se sont séparées de leurs proches, de leurs enfants, les ont vendus pour avoir quelques dollars, quelques euros, quelques sous. Une dégradation telle que le parent ne peut plus se dire « Comment je vais faire pour m'en sortir sans vendre mon enfant ?» Certains font des trafics d'organes, en kidnappent des personnes, jeunes, un peu moins jeunes, ceux qui sont sains de corps, et là, on récupère des organes. Je ne sais pas quoi, le cœur et le reste. Une dégradation qui permet à l'homme d'être débouché. Vous tremblez, et moi aussi. Et le fait d'arriver à un tel point nous fait inévitablement tomber sous la condamnation et la colère de Dieu. Lisons ensemble dans Romains, Romains chapitre 5, le verset 18. Romains 5, 18, on nous dit ceci. Ainsi donc, comme par un seul homme la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul la justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. La condamnation s'étend à tous les hommes parce que le péché est entré. Mais l'espoir que nous avons, c'est la suite du verset qui nous dit que par un seul homme aussi, la justice sera faite. Et nous serons rendus justes. Oui, nous sommes tous pécheurs. Oui, nous sommes tous condamnables. Oui, les marchands de mort sont condamnables. Mais la justice se fera au moment voulu. Dieu a un temps pour toutes choses. Nous devenons, en tout cas les marchands de mort, font tout pour que les gens deviennent des esclaves de Satan, créant des besoins. Éphésiens 2, 2 nous dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Et nous voyons là quelque chose de clair. Autrefois, il y a des marchands de mort, mais il y a aussi ceux qui ont décidé d'un pas ferme de changer de direction. Autrefois, vous marchiez dans ces rangs-là, dans ces sentiers-là. Mais aujourd'hui, vous avez trouvé le nouveau sentier, le seul sentier. Et d'ailleurs, ce sentier est identifié par une personne. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc je suis le sentier, la vie, la vérité. Il est de notre devoir et de notre possibilité de choisir entre la vie et la mort. D'ailleurs, le texte biblique nous dit « Je place devant toi la vie afin que tu vives. Mais si tu choisis de ne pas vivre, tu as aussi le choix, la mort. Mais là, ça sera tes risques et périls. C'est ton choix. » Nous pouvons ne pas être des marchands de mort ce soir, mais nous avons un choix à faire. Nous avons un choix à faire pour nos familles. D'abord, nous avons un choix à faire pour nous. Mais nous avons un choix à faire pour nos familles, pour nos enfants. Et même si certains connaîtraient, par exemple, ce marchand de mort, d'ailleurs, il y a une association à La Réunion qui est en train de se battre contre ça, et je les remercie. Les panneaux publicitaires qui se trouvent à certains pas des écoles, des lycées, et sur ces panneaux publicitaires, vous avez l'alcool. Ah oui, lors des fêtes, il y a des promotions pour les alcools. Et une association est en train de dire, mais comment vous voulez faire arrêter boire les gens si vous continuez à leur proposer une belle publicité qui leur montre que tout le monde est bien? Alors qu'on sait très bien que l'alcool tue les familles. D'abord, tue le corps. Il y a des maris qui se permettent de frapper leur femme. Une dégradation physique, morale, spirituelle. Il y a des maris qui sont capables de renvoyer leur femme. Mais ça se passe dans le couple. Mais une fois que cet alcoolique, cet homme ou cette femme qui a bu, se trouve sur la route, la voiture devient une arme. Combien d'accidents liés à l'alcool? Combien de maladies liées à l'alcool? Et la cigarette? Et les drogues? J'ai regardé une photo. Ben, j'ai pas mis les photos. La drogue du crocodile, vous en avez entendu parler? J'ai regardé des photos, mais ce sont des gens comme s'ils se sont fait kidnapper, bouffer, manger par un crocodile. Il reste là un morceau de chair avec des os. Et les gens savent qu'ils vont dans cette direction. Et malgré tout, ils continuent à prendre cette drogue. Je me dis, quel est l'état psychologique de ces gens pour continuer à utiliser ces drogues? Et oui, Jean chapitre 8, verset 44 nous dit que certains ont pour père le diable et certains veulent accomplir à tous les coups les désirs de leur père le diable, lui qui est meurtrier dès le commencement et qui ne tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a point en lui de vérité. Le texte se termine en disant qu'il est menteur. Et nous l'avons vu dès le jardin. Il est menteur, le père du mensonge. Les gens qui nous disent « Bois un petit coup, ça ne fait rien ça. » C'est la fête, un anniversaire, une promotion. « Bois un petit coup, ça ne fait rien ça. » Ce sont des agents marchands de la mort. Oui, je vous ai dit, il y a des conséquences aussi sur le plan moral. Pourquoi? Parce que la connaissance du bien, on peut se dire, ah oui, ça c'est bien. Mais avoir l'incapacité, être sans le pouvoir de l'accomplir. D'ailleurs, regardez Romains chapitre 7, versets 14 à 19, ce qui est écrit. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché, car je sais ce que je fais. Et je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de le faire. Et de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Cette conséquence morale nous empêche d'accomplir ce que nous reconnaissons être bien. Nous avons aussi une connaissance du mal, nous savons ce qui est mal. Et le même texte est en train de nous dire que nous avons une incapacité à nous en défaire. Il nous est impossible de nous détacher de ces choses, sauf si nous laissons Dieu et le Saint-Esprit agir dans nos vies. Toujours Romains chapitre 7 et un peu plus loin, donc le verset 20 à 24, on nous dit ceci. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi que le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc que cette loi est bonne. Quand je veux faire le bien, c'est le mal que je fais. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi, celle qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Chers amis, les marchands de la mort sont encore très actif aujourd'hui. Il y a aussi une dégradation dans la compréhension du sens religieux, dans la perception du religieux. Et Romains chapitre 1er, versets 21 à 23. Puis ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, et ils ne lui rendent pas grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Certains pensent être religieux. La Bible nous dit qu'ils sont devenus fous. Certains pensent être dans le droit chemin et ils sont complètement dans le chemin qui les mène à la ruine. Et d'ailleurs, on a un texte biblique qui nous le dit, n'est-ce pas ? Telle voie paraît juste à un homme et son issue, c'est la ruine, la mort, la destruction, une dégradation totale. Que ferions-nous ? Dans Jérémie chapitre 2, verset 11, on nous dit que certaines nations ont déjoué l'essence de la loi de Dieu. Ils ont tellement déjoué qu'ils se sont rendus coupables d'avoir d'autres dieux et de considérer ces autres dieux comme le véritable Dieu. Certains, d'ailleurs, nous allons le voir dans un petit moment, ont des capacités. Oui, l'homme s'est dégradé, il a gardé certaines capacités. Mais voyons aussi, dans les conséquences de cette désobéissance, qu'est-ce qui s'est passé ? Si nous revenons au jardin d'Éden, lorsque Dieu appelle l'homme, parce que Dieu est quelqu'un qui appelle, Dieu est quelqu'un qui interpelle, Dieu est quelqu'un qui va chercher, et il pose cette question à l'être humain, « Où es-tu ?» Parce que Dieu ne savait pas où était l'homme. Mais bien sûr que si. Mais il voulait faire prendre conscience à cet homme que tu es certainement à un mauvais endroit. L'homme se cache de la présence de Dieu. La peur gagne dès le jardin d'Éden. Et aujourd'hui, moi je me rappelle à l'époque, c'était pas vieux, hein. Moi je ne suis pas très vieux, je suis jeune. Hein. Je me rappelle qu'à l'époque, j'allais à l'école à pied et beaucoup d'enfants allaient à l'école à pied. Aujourd'hui, les gens préfèrent mettre les enfants dans des bus, dans des taxis et ils ne vont pas marcher. Hein, parce qu'ils ont peur de passer par là où il y a un malfrat ou un dealer ou un pervers sexuel ou peu importe, les gens ont peur. La société a peur des décisions, et on a vu hier soir avec le conférencier, de ces décisions politiques. On a peur de l'avenir, parce que les décisions qui sont en train de se mettre en place peuvent nuire à notre société, peuvent nuire à nos églises, peuvent nuire à nos familles. Qu'allons-nous faire ? Hébreux chapitre 2, verset 15, on nous dit « Et il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. » Hébreu, donc là, est en train de nous dire qu'il y a un temps où Dieu délivrera ceux qui étaient dans cette servitude, dans cette prison, dans ces chaînes. D'ailleurs, le psaume chapitre 2 nous dit « Délivrons-les de leurs chaînes, brisons les liens. » Il est possible de se défaire de ces marchands de la mort. Il est possible de se défaire de ceux qui sont soumis aux drogues, à l'alcool ou aux autres addictions. J'ai commencé par les écrans tout à l'heure. Je reviens 30 secondes dessus. Vous savez, laisser trop de temps nos yeux sur un écran nous rend esclaves de cet écran. Des études qui ne sont pas forcément des études faites par des chrétiens nous disent clairement qu'un certain temps passé devant les écrans diminue nos capacités à réagir. C'est pourquoi la plupart de cette société ne réagit plus. Ou du moins quand elle réagit avec tellement de violence qui casse tout, qui brise tout, qui le tue. Mais là encore, on se dit, mais ce marchand de mort, jusqu'où il va aller ? Eh bien, il est capable d'aller jusqu'à dire à un père, tue tes enfants parce que ta femme t'a quitté. Voyez jusqu'où il peut aller, ce marchand de mort ? Il est capable de dire à un père de faire des infanticides. Il est capable de dire à une mère, abandonne tes enfants. Il est capable de dire à un fils, tue ton père pour avoir l'héritage. Il est capable de dire à une fille, trucide ta mère. Le marchand de mort, je vous ai dit, agit. Mais il est de notre responsabilité de nous défaire de ces sentiers. Les conséquences également de cette désobéissance nous emmènent à fuir. Et dès le jardin d'Éden, nous voyons que Adam et Ève ont fui, mais ils ont fui quoi ? La présence de Dieu, on l'a vu tout à l'heure, mais ils ont fui autre chose. Ils ont fui leur propre responsabilité. Et ils ont dit, d'ailleurs, Adam commence, c'est le chef. Il va dire, c'est pas moi, c'est la femme que tu m'as mis à côté de moi. Et la femme va dire, non, c'est pas moi, c'est le serpent. Et si le serpent avait osé ouvrir la bouche, il aurait dit, c'est pas moi, c'est toi qui m'as mis dans le jardin, Dieu. Il n'a pas dit. Il n'a pas dit, mais aujourd'hui, si vous rencontrez des gens qui commettent des erreurs, vous serez capable d'entendre ces mêmes personnes vous dire, c'est pas de ma faute, c'est de sa faute. Ben oui, après tout. Les conséquences de la chute sur les facultés de l'homme. Malgré la chute, aujourd'hui encore, l'homme dispose de remarquables facultés, mais ces facultés sont enclines à être utilisées pour le mal. Regardons la science. Dès qu'on trouve quelque chose d'intéressant, on oriente cette science vers la destruction. D'ailleurs, on doit préparer la paix en s'armant bien comme il faut jusqu'au bout des doigts. Utiliser son savoir, sa créativité pour faire du mal. Et déjà dans Jérémie, on voit que ces hommes qui étaient très habiles de leurs doigts, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Eh bien, ils prenaient du bois, ils prenaient des pierres, ils prenaient les choses, un support. C'était de très très bons sculpteurs. Mais ils ne sculptaient pas n'importe quoi. Ils sculptaient des dieux en bois, des dieux en pierre, qui ont des oreilles qui n'entendent pas, qui ont des yeux mais qui ne voient pas, qui ont des pieds mais il faut les transporter d'un point à un autre. Des gens qui sont habiles de leurs doigts. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont très habiles, habiles pour faire le mal. Romains, chapitre 1er, au verset 23, nous dit, on l'a déjà vu mais on relit, ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Oui. Oui. Des gens qui sont capables de transférer l'adoration du Créateur à la créature et de la créature à une représentation sans vie. L'intelligence est obscurcie et Romains nous en parle, Éphésiens nous en parle. Nous avons aujourd'hui une connaissance qui est imparfaite et une connaissance même si on va chercher avec 10 doctorats, des gens qui sont scientifiques, des gens qui... C'est une intelligence qui est abîmée. Même la plus grande intelligence, elle est neutralisée par le mal. Et 1 Corinthiens 13, verset 12 nous dit que sa volonté n'est plus en harmonie avec celle de Dieu. Matthieu en parle, Éphésiens en parle, Josué en parle, Jean en parle. L'homme est incapable d'aimer le bien. Par contre, il est poussé à aimer le mal. Et on pourrait se poser la question, mais pourquoi ? Pourquoi l'homme se plaît à faire le mal ? Allez, allons voir. Romains chapitre 1er. Eh bien, qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais en plus, ils approuvent ceux qui les font. Ça voudrait dire quoi ? Eh bien, c'est exactement la société dans laquelle nous sommes. Écoutez, je fume, je ne suis pas mort, alors fume-toi aussi. C'est pas ça qu'on dit à nos jeunes ? Écoute, moi, ça fait 3-4 ans que je fume. Tu veux t'intégrer à notre groupe ? Eh bien, tu fumes, sinon, tu n'es pas dans notre groupe. Moi, j'ai déjà goûté à l'alcool. Tu vois bien que ça ne m'a rien fait. Donc, viens avec moi, on va boire un coup. Et puis, on va faire les 400 coups ensemble. Tu vois bien, moi, j'ai réussi à récupérer quelques milliers d'euros en vendant un petit peu de trucs en poudre blanc là sur le bord de la route. Vas-y ! T'as besoin de sous, t'as besoin de t'acheter je ne sais pas trop quoi. Marchand de la mort. Parce que l'homme est neutralisé. Neutralisé depuis son cerveau. Matthieu 6, verset 24. Voici ce qui est écrit. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez donc servir Dieu et l'argent mammon. La société dans laquelle nous vivons court après l'argent. Les marchands de mort nous offrent des mirages. Mais qu'est-ce qu'ils sont beaux ces mirages? La Française des Jeux, bon, on ne va pas trop dire, mais achetez un ticket à 1 euro, 2 euros, vous allez gagner des millions, vous allez devenir millionnaire. Mais combien d'hommes et de femmes ont joué et n'ont rien gagné? Et les gens me disent, mais oui, mais pour gagner, il faut jouer. Bien sûr, mais combien de fois tu as perdu avant de gagner? Et combien d'argent, non, combien de personnes as-tu volé quand tu gagnes leur argent? Marchand de la mort. Parce que la société nous a créé des besoins, il faut toujours faire plus, il faut toujours avoir plus. Parce que l'autre, il en a. Et bien, puisque l'autre, il a, ben, il faut que moi aussi, je l'ai. Et en pensant à l'éternité, l'homme peut étudier, d'ailleurs, il y a des grands scientifiques qui ont dit que la Terre était formidable et que, vu de l'espace, il y a forcément un Dieu qui existe, mais malheureusement, ils sont dans ce déni de l'au-delà, de la réalité de l'au-delà, et ce déni d'une existence d'un Dieu. Ils disent, mais c'est une force, c'est une super nature, je ne sais pas trop quoi. Non, il n'y a pas de Dieu. C'est le fruit du hasard. Le fruit du hasard par des scientifiques, des gens qui ont des grosses têtes avec plein de choses dedans et qui, après toutes leurs années d'études et de recherches, disent il y a là un truc, mais ce n'est pas Dieu. Et je reconnais qu'il y a là quelque chose qui me dépasse, mais ce n'est pas Dieu. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 12. Nous déclare la chose suivante. 1 Corinthiens, le chapitre 15 et le verset 12. Voici ce qui est écrit. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, donc des gens qui prennent la parole et qui disent, si on prêche que Christ est mort, comment quelqu'un parmi vous, disent-ils, qu'il n'y a point de résurrection des morts? Vous comprenez l'idée? On est capable de dire une chose et son contraire. On est capable d'aller dans une direction et tout de suite après, prendre la direction à l'opposé. Difficile à croire, mais pourtant, c'est bien la réalité de notre société. Psaume chapitre 14, verset 1er. Psaume 14, verset 1er, où il est écrit ceci. L'insensé, celui qui n'a pas de sens, dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'homme peut mal user son autorité sur la création. Et à plusieurs reprises, on le voit dans Deutéronome, par exemple, et dans l'Apocalypse. Donc on va lire ces deux textes ensemble, Deutéronome, chapitre 20, versets 19 et 20. Deutéronome, chapitre 20, le verset 19 et le verset 20. Si tu fais un long siège pour t'emparer d'une ville avec laquelle tu es en guerre, tu ne détruiras point les arbres en y portant la hache. Tu t'en nourriras et tu ne les abattras point, car l'arbre des champs est-il un homme pour être siégé par toi? Mais tu pourras détruire et abattre les arbres, que tu sauras ne pas être des arbres servant à la nourriture et en construire des retranchements contre la ville qui te fait la guerre jusqu'à ce qu'elle succombe. Oui, on a une autorité, on a un pouvoir, on a quelque chose qui nous rend supérieur à l'autre. Et qu'est-ce qu'on en fait? On détruit tout. Apocalypse, je vous avais promis, chapitre 11, verset 18, où il est écrit « Les nations se sont irritées et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts et de récompenser les serviteurs des prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. » Oui, les marchands de la mort seront un jour détruits. Tout cela a engendré des comportements individualistes, égoïstes, des conflits, des rivalités sont nés. Et aujourd'hui, le monde se met à courir, mais vraiment à courir dans tous les sens, afin d'adorer trois dieux, qui n'en fait qu'un. Ces trois dieux, c'est l'argent, on en a déjà dit un petit mot, le sexe, on en a parlé, et le pouvoir, on l'a vu hier soir. Ces trois dieux dominent aujourd'hui. Et à cause de tout cela, des dérives deviennent possibles. Il y a donc tous ces trafics dont je vous ai déjà parlé, la drogue, les armes, la prostitution, l'esclavage sexuel, le travail, être esclave de son emploi, esclave de son patron ou esclave de son collègue, des trafics d'organes, des trafics d'aliments, on nous vend de la viande de bœuf pour la viande de cheval ou l'inverse. Le péché est venu dans le monde et cela a abîmé toute l'humanité. La bonne nouvelle, je vous ai dit tout à l'heure, que Dieu a créé l'homme à son image. Une deuxième nouvelle pour nous ce soir, c'est que Dieu continue à aimer sa création. Dieu continue à aimer l'homme. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, il va chercher l'homme en lui posant cette question, « Mais où es-tu ?» Et Dieu n'abandonne pas l'humanité, Dieu n'abandonne pas l'homme. Dieu a fait des promesses et il les réalise en Jésus-Christ. Et Romains chapitre 5, versets 15 à 21 nous parle clairement de ce que Jésus a fait pour nous. Parce qu'on nous dit que par un homme, la mort est venue et par Jésus-Christ, le salut nous est offert. Ce que Jésus aimerait dire à tous ces marchands de mort, ne soyez plus esclaves du péché et libérez ceux que vous avez rendus esclaves. Ne tranquillisez pas votre conscience en disant que tout le monde le fait et donc vous aussi vous pouvez le faire et moi aussi par la même occasion. Non, repentez-vous. Repentez-vous maintenant car le royaume des cieux est proche. Ne maltraitez pas les plus petits de mes frères car la Bible nous dit clairement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Chers amis, nous arrivons donc à la fin de notre discussion de ce soir, notre étude de ce soir, avec qu'est-ce que Jésus aimerait dire à tous ces marchands de mort. Eh bien, il est en train de nous dire « aime », en un mot, « aime le bien ». Abandonne le chemin du mal. Aime le bien. Je vous remercie de votre écoute et je vous donne rendez-vous à demain soir.